dans ce divin chef de ma foi, dans ta faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence brûle la vie et la foi. Dans la paix, dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours de rage, de turité, d'effroi, quand l'oublie mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Aujourd'hui, nous lirons au chapitre 20 des Actes des Apôtres, les versets 1 à 12. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples. Après les avoir encouragés, il prit congé d'eux et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette contrée et il adressa des exhortations nombreuses aux fidèles. Puis il alla en Grèce et il y demeura 3 mois. Au moment où il s'apprêtait à embarquer pour la Syrie, les Juifs lui tendirent un guet-apens. Cela le décida à retourner par la Macédoine. Sopater, fils de Pyrrhus de Bérée, l'accompagnait, ainsi qu'Aristarque et Secundus de Thessalonique, Caius d'Herbe et Timothée, Tychique et Trophime, originaire d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Quant à nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et en 5 jours nous les rejoignîmes à Troas où nous demeurâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, alors que nous étions réunis pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretint avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions réunis. Un jeune homme nommé Eutyche, assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Et accablé par le sommeil, il tomba du 3e étage et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et l'ayant pris dans ses bras, il dit « Ne vous troublez point, car son âme est en lui. » Après être remonté, il rompit le pain et mangea, et après avoir parlé longtemps, jusqu'au point du jour, il partit. Quant au jeune homme, on le ramena vivant, ce qui fut pour tous une grande consolation.
Nous voici donc presque au bout des pérégrinations de Paul. Dimanche prochain, vous suivrez déjà son dernier voyage qu'il conduira à Rome. Paul visite presque toutes les églises dans cet épisode du 3e voyage, presque toutes les églises que lui ou ses assistants ont fondées depuis ses débuts d'apôtre, vers l'an 45, soit depuis presque 20 ans. Si je rappelle cela, c'est parce qu'il me semble que Paul a beaucoup évolué pendant son ministère. Dans les premières années, il était l'accompagnateur de Barnabé. Ce n'était pas lui le chef. Mais très vite, on parlera essentiellement de Paul, de sa fougue, de sa manière aussi de se mettre à dos les Juifs, ainsi qu'une bonne partie des chrétiens issus du judaïsme. Il n'évitait aucune confrontation, même si ensuite il devait fuir de manière rocambolesque. Mais ici, plus rien de tel. Il accepte de modifier ses plans pour ne pas susciter de nouveaux troubles. Auparavant, il se montrait aussi intransigeant quant au choix de ses accompagnateurs. Ainsi, il s'est disputé avec Barnabé jusqu'à la rupture parce que celui-ci voulait emmener un certain Marc. Or, Paul reprochait à ce dernier de les avoir quittés en cours de mission. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Peut-être parce que Marc était exaspéré face à ce petit nouveau qui se mettait toujours sur le devant de la scène, alors que Barnabé était considéré comme un maître parmi les premiers chrétiens. Vous vous souvenez peut-être que ça a été un des premiers à vendre tous ses biens pour que la communauté en profite. Et lui-même, Marc, était déjà disciple du Christ à Jérusalem peu après la résurrection. Alors, pour qui se prenait ce petit nouveau qui était un ancien persécuteur des chrétiens ? Paul s'était même dressé contre Pierre et il a dû aller à Jérusalem pour justifier son ministère. Aujourd'hui, plus rien de tel. Paul est connu dans une grande partie de l'Empire romain et même jusqu'à Rome, même s'il n'y est pas encore allé. Tout cela grâce à son abondante correspondance, dont nous n'avons plus qu'une petite partie, et aussi à cause de tous les contacts amicaux qu'il a noués au cours de ces années. Parmi ces contacts, il y a les nouveaux assistants, dont nous avons eu l'énumération. Il les a choisis lui-même au long de ses voyages. La liste est révélatrice. Sopater et Aristarque viennent de Macédoine. Gaius et Timothée viennent des monts Taurus. Tychique et Trophime de la région d'Éphèse. Quant à Luc, celui qu'il nomme son médecin bien-aimé dans l'Épître aux Colossiens, il est certainement originaire de Grèce. Cette énumération nous montre toutes les régions évangélisées par Paul. Elles sont toutes représentées pour assurer la continuation de la mission une fois que Paul ne sera plus là. Ils prendront sa succession et transmettront le plus fidèlement possible ce qu'ils auront appris de ce maître du christianisme qui est devenu Paul. Parce que le message du Christ Sauveur doit être remis à de nouveaux témoins pour se répandre encore plus loin. Au cours de cette dernière tournée de visite pastorale, Paul s'arrête donc une semaine à Troas. Il sait qu'il n'y reviendra plus, pas plus qu'en Grèce ou en Macédoine. Il ne reverra plus ces gens qui lui sont si chers depuis tant d'années. Ce dernier soir à Troas, c'est une espèce de point d'orgue. C'est pour ça qu'il parle aussi longtemps, il veut encore transmettre le plus possible. Toute la communauté est réunie, l'émotion est forte. On partage encore un repas, on pose plein de questions, on écoute Paul avec attention. Et la nuit tombe, on a allumé des lampes à huile qui fument et alourdissent l'atmosphère. Nous connaissons tous au long des longues soirées cette espèce de torpeur qui peut s'emparer de nous. Quelle que soit la bonne ambiance et l'envie de rester pour entendre encore, la fatigue est là. Alors on s'appuie sur le coude, et puis les paupières de temps en temps se fermaient un peu. Un jeune homme s'est installé sur l'appui de la fenêtre, ouverte à cause de la fumée. Et contrairement aux personnes plus âgées, il a probablement travaillé très dur pendant la journée. Il désire quand même rester pour écouter, écouter encore. Et tout à coup, catastrophe, c'est la chute, la mort. La fête est gâchée. Cette nuit sera tragique comme la dernière nuit du Christ avec ses disciples. Et on n'aura même pas pu célébrer la Sainte-Cène avec l'apôtre. Les gens guettent la réaction de Paul. Est-ce qu'il va pleurer avec la famille, les consoler? Ou bien est-ce qu'il va peut-être commencer un prêche? Parce que faire la morale, ça fait aussi partie de ce qu'il faisait très souvent aux chrétiens. Et il aurait pu dire, voici ce qui attend ceux qui ne savent pas veiller. Le mal est là qui guette. À la moindre occasion, à la moindre faiblesse, il vous saute dessus et la mort triomphe. Ce genre de discours n'est pas impossible de la part d'un homme aussi ambitieux pour Dieu que Paul. Et bien des prédicateurs plus tard auront cette attitude culpabilisante, accusant les paroissiens de manquer de foi. Au point que certaines personnes, aujourd'hui encore, se sentent coupables de s'endormir, par exemple, le soir pendant la dernière prière, ou d'être incapables de se concentrer pendant tout le culte. Heureusement, certains se sont montrés plus conciliants et surtout beaucoup plus humbles, se sachant aussi faibles que leurs ouailles. Je pense que vous connaissez toute cette histoire du pasteur et du paysan, mais je vais quand même vous la rappeler. Il y a longtemps, un pasteur cheminait avec son âne, peut-être au pays Sévenol. Un paysan l'interpelle. « Alors, monsieur le pasteur, des soucis ? Vous semblez bien préoccupé. » « Ah, mon brave, je suis chagriné. Je me rends compte que je suis incapable de me concentrer vraiment sur la prière. Je me laisse constamment distraire par d'autres pensées. Mais monsieur le pasteur, notre Père n'est pourtant pas bien long. Eh bien, mon brave, si tu arrives à dire toute la prière sans penser à autre chose, je te donne mon âne. Chiche ! Et le paysan commence à réciter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Et tout à coup, il s'interrompt et il dit au pasteur, « L'âne, c'est avec ou sans la selle ?» Nous sommes tous un peu comme ces deux hommes, incapables de nous concentrer longtemps, quelle que soit notre bonne volonté. Au début de son ministère, le jeune Paul aurait probablement trouvé intolérable qu'on s'endorme pendant qu'on parlait de Dieu et aurait vu dans la chute et la mort du jeune homme une punition divine. Mais Paul a mûri. On le constate dans la place qu'il laisse désormais à ses collaborateurs et aussi dans sa manière de s'adresser aux fidèles dans ses lettres, même s'il doit ensuite leur faire des reproches. Je vais vous donner un exemple. Dans la première lettre aux Corinthiens, il commence par « Je rends grâce à Dieu à votre sujet ». Ça a l'air d'être un compliment. Et presque tout le reste de la lettre sont des manières de reprendre leur manière de vivre. Ainsi, il rappelle que c'est immoral de se conduire n'importe comment sous prétexte que, parce que baptisé, on est déjà sauvé. Il fait des reproches à ceux qui se croient plus importants parce qu'ils ont été baptisés par un tel ou par un tel. Il dit aussi qu'il ne faut pas imposer des règles trop dures aux autres et ne pas se juger les uns les autres, se faire des procès, ne manquer d'indulgence, etc. Et même le repas du Seigneur dans cette communauté, au lieu d'être un moment de fraternité, est un moment d'exclusion. Et Paul conclut ses salutations « Que parmi vous, tout se fasse par amour. » On est bien loin de la lettre aux Galates qui a été écrite plus tôt, où transparaît son exaspération. Il commence par s'étonner que ces gens se détournent si vite de lui, lui, celui qui vous a appelé par la grâce du Seigneur. Et à la fin de la lettre, sa bénédiction est restrictive. Sur tous ceux qui suivent cette règle, paix et compassion. Pour eux, pas pour les autres. Je pense qu'il est important pour nous de pouvoir suivre cette évolution de Paul à travers le livre des Actes et les Épîtres. Des autres apôtres, nous ne savons presque rien de personnel. Mais la vie de Paul permet de constater l'évolution de notre propre foi. Souvent, fraîchement convertis ou dans la fougue de la jeunesse, nous sommes durs avec les autres. Nous jugeons leur foi. Il ou elle est trop tiède, pas assez souvent au culte, pas assez à l'écoute des autres, ou pas orthodoxe, c'est-à-dire pas conforme à tout ce que nous jugeons juste de penser au sujet du Christ, de Dieu et de l'Église. Et puis, avec le temps, nous constatons à quel point nous sommes nous-mêmes faillibles. Nous remarquons aussi que parmi les plus zélés, certains en tirent gloriole, alors que toute gloire devrait revenir à Dieu seul. En étant plus lucide sur soi-même, on devient plus indulgent avec les autres. Si le pasteur de notre histoire n'avait pas d'abord parlé de sa propre faiblesse, eh bien, le paysan n'aurait pas pu constater ses propres insuffisances. C'est dans notre faiblesse reconnue que Dieu peut venir mettre sa force, pas dans notre jugement sur nos prochains et notre complexe de supériorité. Il faut de tout dans l'Église. Si Paul n'avait pas été aussi enthousiaste dans ses débuts, il n'aurait pas fait autant de disciples pour le Christ. Mais il faut aussi des gens plus patients, plus tolérants. Tout est bon dans l'Église. L'histoire de ce jeune homme de Troas nous montre aussi en toute simplicité la force paisible dans ce temps-là de la foi de Paul après tant d'années de ministère. Il prend le jeune homme mort dans ses bras et dit sobrement « Ne vous agitez pas, il est vivant. » Pas de prière ostentatoire ou de geste, juste, probablement, une supplique intérieure. Un acte de foi montrant la vérité qu'il prêche depuis sa conversion, la foi au Christ est plus forte que la mort même. Ensuite, vous l'avez certainement remarqué, il ne laisse pas aux gens le temps de le féliciter, de s'extasier. Il remonte tranquillement et en geste de louange, il célèbre la Sainte Cène qui dit cette mort transformée en vie mieux que toute parole. Oui, comme celle de Paul, notre foi est appelée à évoluer au cours du temps. Elle devient parfois moins démonstrative, mais elle s'approfondit. Elle devient partie intégrante de nous, comme tissée dans nos pensées et nos actes, même inconsciemment. L'année dernière, avec vous, nous avions aussi médité sur la mort et la vie. C'est un des thèmes centraux. C'est la bonne nouvelle que nous apporte la Bible. À Troas, le jeune homme est revenu à la vie telle que nous la connaissons. Cependant, nous savons tous que ce genre de miracle est très rare. Peut-être le serait-il moins si nous osions y croire et le demander davantage. Mais surtout, nous croyons que la mort terrestre n'est que le passage vers la vie en plénitude auprès de Dieu. Dans son épître, Jacques recommande aux anciens de se rendre au chevet des malades et de prier pour eux. Il écrit « Le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Or, dans la Bible, le verbe « relever » signifie aussi bien « guérir » que « ressusciter après la vie terrestre ». Donc, même si tous les accidentés et les malades ne nous reviennent pas, notre foi en Christ nous dit « ils sont sauvés ». Ils participent dorénavant à ce qu'on appelle la communion des saints. Ce lien qui abolit la mort et la distance grâce à Dieu, en Dieu. Alors, quel que soit notre âge, quelle que soit notre manière de vivre notre foi, restons unis, en harmonie les uns avec les autres, sous le regard bienveillant, fraternel et paternel de Dieu. Amen.